à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Salam alaikum, chers auditeurs. Quelques-uns d'entre vous sont venus prier et réfléchir avec moi sur l'avenir de l'homme et de l'évolution. Quel avenir peut-on envisager pour l'homme? Car enfin, il est bien obligé de se reconnaître limité, ne serait-ce que parce qu'il est mortel. Quel avenir également pour l'évolution? Car s'il n'y en a pas, ça tourne court et c'est absurde. Cette double question nous fait penser au point le plus original de la vision du père Teilhard de Chardin sur le monde que je résume ici en deux mots. Nous sommes dans un univers qui converge. Teilhard nous montre que ce mouvement de convergence continue au niveau de la pensée par le phénomène si évident de nos jours de la co-réflexion, c'est-à-dire des millions de réflexions qui se renforcent grâce au développement prodigieux des moyens de communication sur une Terre qui est ronde, donc en surface fermée. L'évolution se prolonge et même s'accélère au niveau des centres pensants. Ce qui se passe, ce qui se pense, est connu et commenté par tous. Aucune recherche, aucune découverte à l'heure actuelle ne peut être réalisée par un seul savant. Notre cosmos est polarisé du seul point de vue naturel vers une concentration de lui-même toujours croissante. Il s'agit, en réalité, du phénomène de mondialisation que Teilhard de Chardin avait prédit il y a 60 ans et qui nous crève les yeux aujourd'hui. Ce phénomène de concentration, par quoi, depuis le début, avance et se réalise l'univers sous la seule impulsion des lois naturelles, non sans une influence secrète d'ordre spirituel, se continue au-delà et au-dessus de nous. Mais avec l'homme apparaît une nouvelle composante, il est doué de liberté. Ce mouvement de convergence ne se fera donc pas sans lui. Il faut qu'il s'y prête librement, de façon responsable. Il ne se fera que si ce mouvement est personnalisant. C'est-à-dire, c'est décisif ici. En convergeant avec les autres, l'homme ne peut pas accepter de se perdre lui-même dans une masse anonyme. Ce qu'il faut sauver, c'est le centre personnel de chaque homme. C'est d'être profondément lui-même. Or, Teilhard nous a bien montré qu'au niveau de la vie, je le cite, « nous sommes conduits à accepter cette proposition paradoxale où tient le dernier secret de la vie. La véritable union ne fond pas les éléments qu'elle rapproche. Par fécondation et adaptation réciproque, elle leur donne un renouveau de vitalité. L'union différencie et l'union centrifie, c'est-à-dire qu'elle renforce le centre et par conséquent, quand il s'agit de personnes, la véritable union différencie et personnalise. Ainsi donc, la mondialisation qui effraie tant de gens en ce troisième millénaire ne va pas à perdre l'humanité, mais à accomplir l'homme dans ses vraies valeurs, à condition qu'elle soit bien menée. Et le père Teilhard de Chardin précise, je le cite, « l'union, disions-nous, personnalise. Ceci toutefois, ne l'oublions pas à une condition, c'est que les centres groupés par elle se rapprochent entre eux, non pas d'une façon quelconque ou forcée, mais spontanément, centre à centre, c'est-à-dire en s'aimant. L'amour doit donc être reconnu, avec Teilhard de Chardin, comme la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques. Je cite « L'amour, forme supérieure de l'énergie humaine. L'amour, aimez-vous les uns les autres. Il y a 2000 ans que ces paroles ont été prononcées. Mais aujourd'hui, c'est avec un ton très différent qu'elles viennent de nouveau sonner à nos oreilles. Pendant des siècles, charité, fraternité ne pouvaient nous être présentées que comme un code de perfection morale. Or, depuis que se sont révélées à notre esprit, d'une part, l'existence de la personne humaine, de sa valeur spirituelle, et d'autre part, la nécessité vitale où nous nous trouvons de sauver celle-ci, la voix qui parle se fait de plus en plus impérieuse. Elle ne dit plus seulement « aimez-vous pour être parfait », mais « aimez-vous les uns les autres ou vous périrez ». Aimez-vous les uns les autres ou vous mourrez. Et au cœur de notre monde et surtout de notre douloureux Liban, à la vitesse où sa conscience et ses ambitions augmentent, le monde ou le Liban fera explosion s'il n'apprend pas aujourd'hui à aimer. L'amour, l'avenir du monde et du Liban, l'avenir de la terre pensante, est organiquement lié au retournement des forces de haine en forces de charité. Qui veut et va entendre cet avertissement? La voix du saint patriarche maronite crie cela à temps et à contre-temps, et nous devons entourer cette voix du patriarche et crier avec lui à tout le peuple libanais et surtout aux chrétiens aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous l'a dit et comme le Christ vous aime. C'est là votre unique solution, l'amour. L'union dans l'amour est la seule qui soit constructive. N'est-ce pas là une lumière sur ce difficile chemin qu'est la construction du Liban, ou encore celle de l'Europe, bien sûr, ou encore pour vivre ce phénomène irréversible de la mondialisation? N'est-ce pas plus que jamais l'heure de choisir, l'heure de construire une unité sans fusion ni confusion, sans domination, mais dans la distinction et la communion, autour de notre saint patriarche, autour de Jésus lui-même, autour du Seigneur de la vie? Dieu parle fort, bien plus il s'est incarné. Que Dieu ait parlé, c'est-à-dire qu'il se soit révélé au cœur des hommes assez conscients et assez ouverts, assez purs pour l'entendre, cela n'est pas douteux. Il suffit de lire quelques-unes de ces expressions admirables de mystiques musulmans, bouddhistes, indiens ou autres pour s'en convaincre. Mais ce que je vous ai dit avant montre la nécessité d'un centre de convergence. Force nous est de conclure, avec Teilhard de Chardin, que dans nulle autre espèce de cosmos et à nulle autre place, aucun être, si divin soit-il, ne saurait exercer la fonction d'universelle consolidation et d'universelle animation que le dogme chrétien reconnaît à Jésus. Je cite Teilhard de Chardin. Le grand événement de ma vie aura été la graduelle identification au ciel de mon âme de deux soleils, l'un de ces astres étant le sommet cosmique postulé par une évolution de type convergent, et l'autre astre se trouvant formé par le Jésus ressuscité de la foi chrétienne. C'est pourquoi, en parlant de Dieu dans sa relation à l'univers, il affirme, je le cite, « au sommet des choses ». Ce n'est plus seulement comme un centre de consistance que nous l'apercevons, ni seulement comme un premier moteur psychique, ni même seulement comme un être qui parle, mais comme un verbe qui s'incarne. Plus, en effet, on réfléchit aux lois profondes de l'évolution, plus on se convainc que le Christ universel ne saurait apparaître à la fin des temps au sommet du monde, s'il ne s'y était pas préalablement introduit en cours de route par voie de naissance, sous la forme d'un élément. C'est par le Christ Oméga que tient tout l'univers en mouvement. C'est de son germe concret, l'homme de Nazareth, que le Christ Oméga tire théoriquement et historiquement, pour notre expérience, toute sa consistance. Le sens, l'essence de notre christianisme, ce n'est ni plus ni moins que la croyance à l'unification du monde en Dieu par l'incarnation. Prions.
Les cieux pour que vive la terre, il a donné son cœur et fait de nous des frères. Yeshua. Sa vie, Yahabibi, en une danse de feu, Yaraboni. Il est monté au ciel, au royaume éternel, diffusant son esprit pour être comme lui, Inch'Allah.
Unissant nos voix, la Yeshua.
Mais Dieu s'incarne dans un monde inachevé, où le mal, inévitable en soi, est inhérent à la condition humaine, comme nous l'avons vu. Écoutons Teilhard. De l'être nouveau lancé dans l'existence et non encore complètement unifié, c'est une chose dangereuse, douloureuse et fantasque. Créer n'est donc pas une petite affaire pour le Tout-Puissant, une partie de plaisir. C'est une aventure, un risque, une bataille où il s'engage tout entier. Dieu ne peut pas faire que les éléments d'un monde en voie de croissance échappent aux heurts, aux diminutions même morales. Eh bien, Dieu se rattrapera. Il se vengera, je peux dire, si l'on peut dire, en faisant servir à un bien supérieur de ses fidèles le mal même que l'état actuel de la création ne lui permet pas de supprimer immédiatement. Dieu, pourvu que nous nous fions amoureusement à lui, sans écarter de nous les morts partielles ni la mort finale, qui font essentiellement partie de notre vie, Dieu les transfigure en les intégrant dans un plan meilleur. Les limitations que la marche générale du cosmos ne lui permet pas de faire disparaître, le Verbe incarné, Jésus-Christ, les domine, comme un sculpteur habile domine les défauts de son marbre, en les intégrant, sans les changer, dans une plus haute spiritualisation de nos êtres. C'est ici qu'il faut insister sur le sens de la croix. Expiation, oui, mais aussi et d'abord traversée et conquête. Je cite Teilhard. Projeté sur un tel univers, où la lutte contre le mal est la condition sine qua non de l'existence, la croix prend une gravité et une beauté nouvelles. Celles-là précisément qui peuvent nous séduire le plus. Jésus est toujours celui qui porte le péché du monde, mais il est plus essentiellement que cela, celui qui surmonte, structurellement en lui-même et pour nous tous, les résistances à l'unification. Les résistances à la montée spirituelle inhérente à la matière. Le sens complet et définitif de la rédemption, ce n'est plus seulement expier, c'est traverser et vaincre. La souffrance humaine, la totalité de la souffrance répandue à chaque instant sur la terre entière, quel océan immense! Mais de quoi est formée cette masse? De noirceur, de lacunes, de déchets? Non pas, mais d'énergie possible. Dans la souffrance est cachée, avec une intensité extrême, la force ascensionnelle du monde. Toute la question est de la libérer en lui donnant la conscience de ce qu'elle signifie et de ce qu'elle peut. Sur la croix, nous sommes exposés peut-être à ne voir qu'une souffrance individuelle et de simple expiation. La puissance créatrice de cette mort nous échappe. Regardons plus largement et nous apercevrons que la croix est le symbole et le foyer d'une action dont l'intensité est inexprimable. Même du point de vue terrestre, pleinement compris, Jésus crucifié n'est pas un rejeté ou un homme vaincu. Il est, au contraire, celui qui porte le poids et entraîne toujours plus haut vers Dieu les progrès de la marche universelle. Faisons comme lui pour être par toute notre existence unis avec lui. On saisit alors ô combien se trompent ceux qui osent blasphémer en disant « Si Dieu existe, s'il est tout-puissant, pourquoi le mal existe ?» En réponse, je citerai la préface de Teilhard pour une biographie de sa sœur Marguerite qui est restée paralysée de longues années. « Ô Marguerite, ma sœur, pendant que, voué aux forces positives de l'univers, je courais les continents et les mers, passionnément occupé à regarder monter les couleurs de la terre. Vous, Marguerite, immobile, étendue sur votre lit, vous transformiez silencieusement en lumière, au plus profond de vous-même, les pires ombres du monde. Au regard du Créateur, mes amis, dites-moi, lequel de nous deux aura-t-il eu la meilleure part ? La croix, symbole non seulement de la face obscure, régressive, mais aussi et surtout de la face conquérante et lumineuse de l'univers en Genèse. La croix, symbole de progrès et de victoire à travers les fautes, les déceptions et l'effort. La seule croix en vérité que nous puissions honnêtement, fièrement et passionnément présenter à l'adoration d'un monde devenu conscient de ce qu'il était hier et de ce qu'il attend demain. Dans sa mort, le Christ, celui qui porte avec les péchés tout le poids du monde en progrès, a opéré le grand renversement, le retournement définitif du courant négatif vers le non-être. Saint Paul affirme bien, je le cite, « Le dernier ennemi vaincu, c'est la mort. Vaincu par la foi du Christ, malgré l'abandon du Père, ressenti à un degré que jamais personne n'atteindra. » Je cite, « Le Père n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. » Et alors, le Christ est ressuscité, et par le Christ ressuscité, vainqueur de la mort, le dernier seuil est franchi, définitif. Le ressuscité ouvre le passage à un niveau supérieur d'être, suprêmement réel, cependant qui va sublimer en Dieu toute la création. Premier-né d'entre les morts, le Christ prend d'un seul coup sa dimension universelle. La résurrection marque la prise de possession effective par le Christ de ses fonctions de centre universel. Il rayonne sur tout l'univers comme une conscience et une activité maîtresse d'elle-même. C'est celui en qui tout se réunit et tout se consomme. Celui de qui tout l'édifice créé tient sa consistance. Teilhard dira, je le cite, « Puisque nous avons constaté que le Christ paulinien, le Christ des mystiques, coïncide avec le Christ universel, l'oméga pressenti par notre philosophie, l'attribut le plus magnifique et le plus urgent que nous puissions lui reconnaître est celui d'une influence physique et suprême sur toute réalité cosmique sans exception. Voici contemplé dans sa vigueur physique, tout le mystère de Jésus. Par son incarnation, il s'est inséré non seulement dans notre humanité, mais dans l'univers qui porte l'humanité. L'incarnation est une rénovation, une restauration de toutes les forces et de toutes les puissances de l'univers. Le Christ est l'instrument, le centre, la fin de toute la création animée et matérielle. Par le Christ, tout est créé, sanctifié, vivifié. Donc, répétons-le, le cosmos entier est soutenu et informé par la puissante énergie du Verbe incarné et ressuscité qui le rend capable de tout dominer. Le Christ est le roi de toutes choses, car il a été déclaré tel. Entre le Christ et tout le créé, il s'agit d'une vérité, d'une relation organique, ontologique, basée sur ce qu'il est, car il est. Et en cette année, saint Paul, comment ne pas ici citer le magnifique verset de l'Épître aux Éphésiens sur l'extraordinaire projet de Dieu concernant le monde, évoqué par saint Paul au terme de son long regard sur le mystère du Christ. Le voici dans la traduction officielle de la liturgie. Dans sa bienveillance, Dieu projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. Remarquons au passage qu'il ne s'agit pas de la restauration par le Christ d'un ordre primitif qui n'a en fait jamais existé. Le Christ n'est pas un ornement ou un roi, comme nous en faisons un propriétaire. Le Christ est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, la pierre de fondement, la plénitude. Sainte semaine avec Jésus-Christ, choisissez-le et vivez tout en lui, avec lui et pour lui. Paix de Jésus-Christ. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.